Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Élevons nos mains pour t'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort dans cet endroit? Oh, est-ce qu'on peut acclamer celui qui siège sur le trône de nos cœurs? Son nom est Yeshua, Alpha et Omega, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, le Shiloh, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer comme il est digne? Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci encore pour ces moments, Père de grâce. Nous n'avons qu'une seule prière. Glorifie Jésus-Christ. Glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Accomplis des signes, des miracles et des prodiges de toutes sortes, à travers de ta parole également. Tu accomplis des choses extraordinaires. Tu brises les jougs, Seigneur. Tu libères les captifs. Tu restaures les cœurs. Tu réconcilies les perdus avec toi. Que l'honneur, la gloire, la richesse, la magnificence, la puissance, l'autorité, Seigneur, le triomphe, Seigneur, et la gloire te reviennent, toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, merci encore pour ces moments. Inspire encore ta parole pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Les chants que nous chantons ici, pour tous ceux que vous entendez, ce sont des chants que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous sommes en veillée de prière. Lors de la veillée de prière que nous avons, nous recevons ces chants, ces chants cantiques nouveaux. Le Saint-Esprit nous inspire. Ce sont de magnifiques chants, n'est-ce pas? Pourtant, c'est pendant le temps de prière que le Saint-Esprit nous donne cela. Quand nous recevons des cantiques nouveaux, cette qualité-là qui nous transporte dans l'adoration, alors ça veut dire que nos prières ont été agréées. Alléluia. Et je bénis le Seigneur encore pour la magnifique veillée de prière que nous avons eue vendredi. Et je rends gloire à Dieu pour sa présence à la maison du bâtisseur. Parce qu'ensemble, on peut encore acclamer le bâtisseur, la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous pouvons maintenant prendre place. Prends ta vie avec moi dans le livre des Proverbes. Que quelqu'un dise avec moi le mystère de la sagesse. À qui ça fait du bien cet enseignement-là? Il faut réécouter les enseignements pendant la semaine. Je vous assure, il y a beaucoup de choses qu'on raconte ici. Vraiment beaucoup de choses. Et nous sommes toujours sur notre série La Révélation du Royaume. La Révélation du Royaume. Et bien entendu, c'est notre grande série que nous sommes en train de survoler, d'étudier, d'entrer en profondeur depuis des mois maintenant. Et nous sommes en train de parler en ce moment de la couronne que le roi porte. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je rappelle que nous étudions les différents attributs du roi. Le roi a le sceptre qui symbolise l'autorité. Le roi a une couronne qui symbolise le pouvoir, la force ou encore la puissance. Et le roi a également un encensoir qui symbolise son influence. Nous avons vu pendant plusieurs semaines le symbole de l'autorité et maintenant nous sommes sur le symbole de la couronne, du pouvoir, de la puissance. Et il y a un pouvoir particulier qu'un enfant de Dieu manifeste dans sa marche avec Christ et qui lui permet de remporter beaucoup de victoires et de relever beaucoup de défis. C'est le pouvoir de la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Et Sur le sujet de la sagesse, nous avons introduit avec la couronne de la grâce. Parce que la Bible nous dit que la sagesse est une couronne sur la tête d'un enfant de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de la sagesse qui nous permet de prendre possession ou encore de prendre le contrôle des portes de la ville. Parce que les portes de la ville sont les accès stratégiques de la société que le corps de Christ et l'Église doit posséder. Parce que Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 24 que l'insensé, c'est-à-dire celui qui n'a pas la sagesse, n'a pas le droit de parler à la porte de la ville. Et quand l'Église n'est pas reconnue comme sage et puissante, eh bien, elle n'a pas sa place dans les sphères de décision de la société. Les païens décident de ce qui se passe dans le monde. L'Église, elle se contente de rester entre ces quatre murs et louer le Seigneur. Pourtant, Dieu nous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et la semaine dernière, je nous ai raconté une petite histoire pour nous expliquer que nous sommes tous issus de cette grande et belle famille, la famille de Christ. Et c'est une famille de sang royal. Et qui dit sang royal dit que la richesse, dis avec moi la richesse fait aussi partie de ton panier d'héritage en Jésus-Christ. S'il y a bien un des sujets que Satan a réussi à faire taire dans l'Église, c'est le sujet de l'argent. On enseigne beaucoup de choses dans l'Église, mais on enseigne très peu sur l'argent. Et les pasteurs, de manière souvent indirecte et inconsciente, puisque eux aussi n'ont pas la révélation de ces choses-là, beaucoup de pasteurs n'enseignent pas le sujet de l'argent dans l'Église et, sans s'en rendre compte, fabriquent des chrétiens qui sont appelés à rester pauvres toute la vie. S'il y a bien une chose qu'un père riche transmet à ses enfants dans la maison, c'est comment créer de la richesse. Parce que lui, il a réussi à faire cela. Il a réussi à bâtir un empire avec son argent. Il n'y a rien de pire pour un papa qui a réussi à faire ça et qui ne transmet pas les valeurs, les connaissances qu'il a acquises tout au long de sa vie à ses enfants. Comment ses enfants vont récupérer les entreprises? C'est pour cela que quand vous étudiez les grandes familles riches, souvent les enfants très tôt sont appelés à prendre la succession de l'héritage de leur père, parce qu'on les prépare très tôt. Parce que le père un jour va partir et il ne peut pas laisser son empire entre les mains de païens. Donc il laisse ça entre les mains de ses enfants. Amen. Vous me suivez? Donc, dans le monde, on s'intéresse à l'argent. On étudie l'argent. On comprend comment fonctionne l'argent. On sait comment créer de l'argent. Comment le faire fructifier. Et les gens s'enrichissent et s'enrichissent et s'enrichissent. Et je vous ai démontré la semaine dernière que dans la Bible, depuis le temps de Noé, Dieu avait décidé d'utiliser une famille riche pour sauver le monde. Dites-moi une famille riche. Car nous sommes tous issus d'une famille riche. Les chrétiens mal instruits pensent que les gens de l'Ancien Testament étaient des pauvres. Nos pères, nos ancêtres de l'Ancien Testament n'étaient pas des pauvres. Je pense que ceux qui étaient là la semaine dernière ou ceux qui ont écouté l'enseignement, je pense que vous avez compris maintenant. Je vous ai montré comment Abraham s'est enrichi de manière douteuse, n'est-ce pas? Hein? Comment Jacob est devenu l'agriculteur aux mains d'or. Comment Isaac s'est enrichi grâce au business du forage de puits. Comment Noé s'est enrichi grâce à l'agriculture et le business dans le domaine de la vigne, tout ce qui est vin, etc., les rosés, etc. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, c'était des gens très riches parce que la Bible nous dit que Abraham était très riche, Isaac était fort riche, Jacob était riche et allait s'enrichissant encore plus. Ils étaient très riches. Jésus était riche. Job était riche. Qui d'autre encore? Paul était riche. David. Oh, mais lui, c'était. Le pire de tous, Salomon. Ils étaient riches. Donc, la Bible nous raconte des histoires de gens riches. Mais comment ça se fait que l'Église ne s'intéresse pas à la richesse alors que ces gens étaient riches? On s'intéresse aux choses de l'esprit. Mais la richesse fait partie des choses de l'esprit, mon ami. Ce sont les gens mal instruits qui diabolisent l'argent. Alléluia. On s'intéresse à nous, on s'intéresse à toutes sortes de choses dans le monde, mais on ne s'intéresse pas à l'argent. Pourtant, dans notre vie privée, en privé, on convoite l'argent, on cherche l'argent. Nous en avons besoin. Quelqu'un a dit l'argent est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Mais si on n'enseigne jamais aux gens les principes d'enrichissement, dans la vie. Mais comment voulez-vous qu'ils prospèrent financièrement dans leur vie? S'il y a bien un endroit où les enfants de Dieu passent le plus de temps, c'est à l'église. On passe beaucoup de temps à la maison quand nous sommes en famille, au travail et à l'église. Quand tu étais païen, il y avait la boîte de nuit et les bars, les matitis. Maintenant, j'espère que c'est fini avec ça. Donc, si tu es un bon chrétien qui marche avec le Seigneur Jésus, tu passes ton temps à la maison, à ton travail ou bien à l'école pour les étudiants et à l'église. Mais si dans aucun de ces environnements-là, on t'enseigne les principes d'enrichissement, mais tu vas apprendre ça où? Tu vas continuer seulement à rêver qu'un jour tu deviendras riche, tu vas gagner au PMUG ou bien au loto. Mais ça c'est une chance sur 14 millions. Alléluia. Donc, comme Dieu veut se bâtir un peuple sage et fort, eh bien le Seigneur nous a instruits de lui préparer ce peuple-là et de commencer à enseigner ces choses-là. Parce que Dieu veut se bâtir un peuple fort, sage et riche. Parce que sans la richesse, l'Église ne peut pas prendre les portes de la ville. Amen. Et aujourd'hui, je vais t'emmener encore plus haut. Alléluia. Nous allons parler du mystère de la sagesse suite à découvrir le chemin vers la richesse et la liberté financière. Directement, on va parler d'argent. La richesse et la liberté financière. Et pour cela, on va lire Proverbes au chapitre 13, au verset 11. On va d'abord lire ce passage où il est écrit « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » La richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu, de manière intelligente, tout au long de sa vie, devient riche. Pour compléter cela, et tu vas comprendre pourquoi je te fais lire ces deux passages quand nous allons avancer dans l'enseignement, je vais te demander maintenant d'aller ouvrir ta Bible dans le livre de Luc, au chapitre 19. Luc, chapitre 19. On va lire à partir du verset 1. Et on va lire un peu là. Parce que c'est une belle histoire, mais souvent à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention. Luc, chapitre 19, au verset 1 d'abord. Excusez-moi. Il est écrit ceci, c'est une histoire très intéressante et tu vas comprendre pourquoi. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, dis avec moi un homme riche. Pourquoi la Bible nous précise qu'il est riche? Tu vas comprendre. Un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, directement il courut en avant, et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Je m'arrête là d'abord. La plupart des gens associent ce texte au salut. La plupart des gens associent ce texte au salut. en disant que Jésus-Christ est venu jusque sécher Zachée parce qu'il était venu sauver son âme, etc. Mais ce texte ne parle pas du le sujet de ce texte, c'est pas du tout le salut. Jésus-Christ parle du salut en disant le Fils de l'homme est venu ici, etc., pour le sauver, etc., etc. Mais regarde ce que Zachée dit. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ce gars vient de nous révéler en fait ce qu'il fait de son argent. D'accord? Et c'est suite à la parole qu'il a prononcée que Jésus-Christ dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Pourquoi Jésus-Christ dit que c'est un fils d'Abraham? Parce que tout simplement, il avait des habitudes des fils d'Abraham. La Bible dit que c'était un collecteur d'impôts. Donc, c'était un païen. Ce n'était pas un juif. Ok? Ok? Et ce gars avait des habitudes. Celle de, un, s'enrichir et ensuite utiliser son argent pour faire du bien à la société et aux plus démunis. Et Jésus-Christ dit, mais quand on voit ta vie, on reconnaît là que tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Voilà pourquoi le salut est entré chez toi aujourd'hui. Amen. Et quand cette scène se passe, le texte termine en disant que Jésus-Christ maintenant raconte une parabole pour illustrer la vie de Zachée. En fait, c'est Zachée la source d'inspiration de la parabole de Jésus ici. Amen. Dis avec moi, la Bible, quand on la lit, il faut la lire doucement. Il faut lire la Bible doucement. Dis-le. Il ne faut pas aller trop vite. Hein. Parce que quand Jésus-Christ parle, c'est très important. Et Jésus-Christ s'inspire de la vie de Zachée pour raconter une parabole juste après. Les gens sont là et les gens écoutent Jésus. Et la parabole qu'il raconte commence au verset 12. Elle dit ceci. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier. Dis avec moi, les faire fructifier. Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait avec. Ok? Il dit ensuite, le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. Dis moi, il a gardé son argent dans un linge. Vraiment celui-là. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Donc la banque, c'est Dieu, il aime aussi les banques. Hein, si tu as haïssé ton banquier. Afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Point. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit, on donnera à celui qui a déjà, on lui donnera. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Jésus termine cette parabole par cette phrase simplement pour illustrer cette histoire que les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Le monde sera toujours comme ça. C'est pour ça qu'il dit ça à la fin. Que ça ne sert à rien d'avoir de la haine envers ceux qui s'enrichissent encore plus. Parce que ceux qui s'enrichissent encore plus, ils ont le secret pour devenir encore plus riches. Et les pauvres, comme ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas de secret, ils seront encore plus pauvres. Et ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est super important d'écouter ce type de parabole. Parce que cette parabole, elle parle d'argent. 60% des paraboles de Jésus-Christ parlaient d'argent. Les chrétiens diabolisent l'argent. Pourtant, Jésus-Christ parlait tout le temps d'argent. Et il enseignait sur les principes d'enrichissement, Jésus-Christ. Alléluia. Il y a 5 clés essentielles à retenir dans le proverbe de Salomon, chapitre 13, verset 11, et l'histoire de Zachée, illustrée par la parabole de Jésus. La première, c'est que la richesse qui s'acquiert rapidement n'est pas une bonne richesse. Pourquoi ? Parce qu'en général, les moyens de s'enrichir sont souvent malhonnêtes. La vraie richesse, elle se construit avec le temps et petit à petit. Amen. C'est pour cela que, parce que la richesse s'acquiert avec le temps et petit à petit, il faut commencer tôt. Si tu as 20 ans aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut t'intéresser à l'argent. Parce que 30 ans et 40 ans, ça va sonner très vite. Si tu as plus de 30 ans, plus de 40 ans, ça veut dire qu'il faut que tu te dépêches pour t'intéresser à l'argent. Car 50 ans et 60 ans vont bientôt sonner. Car la vigueur et la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras plus quand tu auras 60 ans. Voilà pourquoi le temps, c'est notre capital le plus important. C'est la seule chose que Dieu donne à tout le monde à part égale. C'est la seule chose. Quelqu'un a dit, tous les hommes naissent sur la terre égaux. Hérésie. On n'est pas tous égaux. Tout le monde n'est pas égaux. Allume ta télévision, regarde Cristiano Ronaldo, tu vas voir s'il est égal à toi. Il n'est vraiment pas égal à toi et il gagne bien plus que toi. Tu vas dire quoi? Tromperie? Non. Il n'est pas du tout égal à toi. Par contre, question de temps, on est tous égaux devant le Seigneur. 2, l'attitude et le renouvellement de ses pensées est quelque chose de capital dans le processus d'enrichissement. L'attitude. Car tout le monde n'a pas la même attitude face à l'argent. Et tu vas te rendre compte, suite, quand tu lis l'histoire de Zachée, que ce gars a eu une attitude, il a été plus intelligent que les autres. La Bible nous dit que Jésus, il y avait la foule. Donc t'imagines un peu la star qui est rentrée à Jéricho. Donc la foule. Et la Bible dit que lui, il était de petite taille. Il ne pouvait pas voir Jésus. Qu'est-ce que la Bible a dit de lui? La Bible a dit de lui, il couru en avant. Dis moi, il a couru en avant. Il a pris les devants. Pourquoi? La Bible dit qu'il courut en avant parce qu'il savait que Jésus-Christ allait passer par là. Donc, il a laissé les gens s'embrouiller avec Jésus là-bas. Et lui, il a devancé tout le monde parce qu'il savait que le gars va arriver ici. Là. Donc, moi, je préfère déjà me positionner ici. Et regarde ce qu'il fait ensuite. La Bible dit qu'il monta sur un sycomore. Le Saint-Esprit me dit, va regarder le mot monta là. Le mot monta vient du grec, pas de l'hébreu, j'ai fait une erreur ici, du grec, qui veut dire, qui se prononce anabeno, qui veut dire élever ses pensées. J'ai dit, hein? Élever ses pensées. Il monta sur un sycomore. Et le grec dit, il a élevé ses pensées. Voici la différence avec le pauvre et le riche. Le riche, il devance tout le monde. Comment il nous devance? Comment les riches devancent les pauvres? Parce que les riches, ils vont chercher l'information avant tout le monde, là où personne ne va. Ok? Et quand ils ont l'information et qu'ils ont compris, ils élèvent leur manière de penser. Ils renouvellent leur pensée. Car s'il y a bien une différence entre les riches et les pauvres, c'est la manière de penser. Les chrétiens sont là et luttent avec les problèmes d'argent pendant que les païens dehors sont assis dans des sommets de formation, prennent de l'avance sur nous et changent leur manière de penser. Et ils dominent. Et puis nous, on est là, on crie, nous serons la tête et non la queue. Vous ne pouvez pas être la tête, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'eux, ils ont de l'avance. Alléluia. Ils ont de l'avance. Un jour, j'étais en train de suivre une interview de Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de la Terre, patron de Microsoft. Et Bill Gates clame qu'il est chrétien. D'accord ? Il dit qu'il est chrétien. Et là, le journaliste lui pose une question intéressante. Le journaliste lui dit, mais si vous êtes chrétien, pourquoi vous n'allez pas à l'église le dimanche matin ? Il dit, moi, je ne vais pas à l'église le dimanche matin. Les pasteurs viennent chez moi et on fait le culte chez moi. Et il dit, mais pourquoi vous n'allez pas comme tout le monde avec... Non, non, il dit, non, non, moi, il y a des gens qui viennent chez moi et qui font le culte chez moi. Et je communie là avec les gens qui viennent et le pasteur nous donne la parole chez moi. Et on lui dit, mais pourquoi? Parce que aller s'asseoir pendant 2 heures à 3 heures dans une salle avec, à l'église là-bas, pour moi, c'est des milliards de dollars que je perds. Donc, je préfère maximiser mon timing, tu vois. J'en fais le culte chez moi et quand c'est fini, je retourne travailler. C'est une manière bizarre de voir la vie en Christ, n'est-ce pas? Mais bon, il est l'homme le plus riche de la terre. Il a une fondation qui nourrit des millions de pauvres. Bon, quoi. J'ai pas envie de dire qu'on reste à la maison. Faut pas suivre son exemple. Mais une chose est sûre, c'est que il a quand même compris certaines choses qui ont fait de lui l'homme le plus riche de la terre. Amen. Il a de l'avance sur les autres. Donc il monta, il éleva ses pensées en disant, Jésus-Christ va passer par là. Et certainement quand il passera par là, il va me voir. Alléluia. Troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que sur la terre, il y a ceux qui savent faire fructifier leur argent et qui deviennent plus riches, et ceux qui ne le savent pas et qui sont de plus en plus pauvres. Viens avec moi faire fructifier l'argent. Tu vas te rendre compte que question gestion financière, il y a une partie qui s'appelle faire fructifier ton argent, le multiplier. Car Dieu a dit, soyez féconds et multipliez. C'est une chose de gagner de l'argent avec ton travail, mais quand tu le gagnes tous les mois, que fais-tu avec? Le fais-tu fructifier ou bien tu es toujours en train de te poser des questions le 15 du mois en te demandant où est passé mon argent? Car si tous les mois ton argent n'est pas fructifié et que tu as toujours des problèmes d'argent, ça veut dire que tu ne sais pas faire fructifier l'argent et tu es dans la catégorie de la troisième personne qui a caché l'argent dans un linge que Dieu appelle méchant serviteur. Et ma question au Saint-Esprit, c'est, Seigneur, es-tu en train de me dire que c'est pour ça que les gens sont dans la malédiction dans ton église et que tu ne les bénis pas? Oui, parce que beaucoup ont l'attitude du méchant serviteur. Je leur confie de l'argent et ils ne savent pas le faire fructifier. Ils sont infidèles. Pire de tout, beaucoup d'entre eux, ils ne donnent même pas leur dîme et même pas d'offrande à l'église. Je veux que je les bénisse, pourquoi? Ils n'ont aucune intelligence financière pour faire fructifier l'argent. Je préfère mettre l'argent dans les mains du païen. Lui, au moins, il sait faire fructifier. Il ne donne pas à l'église. Mais bon, au moins, je me console avec ça. Car quand j'amène l'argent dans mon église, ils ne savent pas quoi en faire, les chrétiens. Ils n'ont pas l'intelligence financière. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réciter la Bible par cœur, alors qu'ils n'y comprennent rien dedans. Aïe. Viens avec moi faire fructifier l'argent. Et on va avoir tout un enseignement sur comment faire fructifier l'argent. Tu vas dire, y'a l'église là-bas, on parle sérieusement business et argent. Tu vas voir que c'est sucré comme le chocolat du matin. Il y en a, ça va vous bousculer. Ça va révolutionner votre mentalité. Et quand vous allez comprendre ces principes pour faire fructifier l'argent, vous allez dire, mon Dieu, je ne savais pas que même au Gabon, on pouvait s'enrichir. Tu penses que le Gabon est destiné à être pauvre? C'est faux. Le Gabon, la France, la Chine, les États-Unis, tout ça, c'est la terre, mon ami. C'est la terre, c'est juste le paysage qui est différent et les cultures. Le principe reste les mêmes partout. Prends les principes que on enseigne depuis plusieurs semaines et qu'on va encore enseigner. Va en Chine, tu t'enrichis. Va aux États-Unis, tu t'enrichis. Va en Afrique du Sud, tu t'enrichis. Va en Éthiopie où les gens meurent de faim, tu t'enrichis. Alléluia. 4. Le chemin vers la richesse commence par la connaissance des principes d'enrichissement, tandis que le chemin vers la pauvreté commence par l'ignorance des secrets de la richesse. Car que tu le veuilles ou non, si tu n'acquiers pas la connaissance et la sagesse pour multiplier l'argent entre tes mains, tu finiras pauvre. J'ai pas besoin d'être appelé prophète Ézéchiel pour prophétiser sur toi et dire que tu finiras pauvre si tu ne comprends pas ces choses. Les gens qui ne comprennent pas ces principes finissent pauvres et luttent toute la vie avec l'argent. N'arrivent pas à assurer leur retraite et l'avenir de leurs enfants. Celui qui veut être confortable dans sa vie doit s'intéresser aux principes d'enrichissement. Sinon, il souffrira. Rassurez-vous, l'État n'est pas du tout notre meilleur ami. La preuve, regardez ce qui se passe dehors. L'État fait tout pour que les gens restent pauvres. Et il va encore enfoncer le bouchon. Je vous l'annonce. Donc si on ne se réveille pas, on restera esclave toute la vie. Dis avec moi, je ne serai jamais esclave au nom de Jésus. Dis avec moi, je vais dominer. Car Dieu dit, psaume 68, domine au milieu de tes ennemis. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, le pauvre est celui qui ne comprend pas les principes d'enrichissement. C'est pour ça qu'il est esclave. Le riche est celui qui élève ses pensées, qui sait monter sur les sycomores, qui sait acquérir la connaissance et comprend les secrets, les mystères cachés du royaume des cieux en ce qui concerne l'argent et la richesse. Et il s'enrichit. Même au milieu des païens, il s'enrichit. Et il domine. Voici le mandat que Dieu vous a donné à la maison du bâtisseur. Il faut vous réveiller, hein. Rêver. Car si on ne comprend pas ça, il y a quelque chose d'assez bizarre, hein? Mais j'ai remarqué ça dans les églises, c'est que quand nous sommes une église en apparence plutôt humble et simple comme la nôtre, ça attire pas les foules. Mais quand les gens voient certaines églises où les voitures sont alignées dans le parking, Mercos, c'est là où les gens courent. On appelle ça les signes extérieurs de richesse. Et la Bible dit que le miel attire les abeilles, n'est-ce pas? Et on a toujours tendance à croire que ces passages de la Bible parlent de l'onction. Ça ne parle pas seulement de l'onction, même la richesse aussi est concernée là-dedans. La richesse attire les gens. Quand tu es riche, ça attire les gens. Les gens veulent être avec toi. Même si tu es vilain, la richesse attire. Vous n'avez pas vu que les gens riches et qui sont vilains, l'argent les rend beaux. Oui. L'argent les rend beaux. La richesse. Oh, mais là, tu blagues. L'argent, dis avec moi l'argent. L'argent. Quand vous allez avoir l'argent, je vous assure, vous allez devenir beau d'un coup. Et vous allez tout d'un coup avoir beaucoup de gens qui vous aiment. La Bible dit quoi du riche? Le riche a... Non, la Bible dit que le riche a beaucoup, beaucoup d'amis pour son malheur. Quand vous allez avoir l'argent, vous allez voir comment les gens vont vraiment vous aimer. Et vous allez avoir du mal à discerner qui est vraiment sincère dans cet amour-là, parce qu'ils vont tous vous aimer de tout leur cœur. Seigneur Jésus, vraiment. Et 5, dans la vie, les gens ont peur du sujet de la richesse parce qu'ils ne savent pas grand-chose au sujet de l'argent. Mais ceux qui en savent le plus et comment acquérir la richesse sont ceux-là qui prennent le plus de risques pour s'enrichir et deviennent encore plus riches tous les jours. Ça veut dire quoi? La connaissance libère. Et plus tu connais et comprends les principes d'enrichissement, moins tu as peur de prendre des risques. Parce que tu sais maintenant que ça marche. Tu as les clés. Imagine que tu montes dans une voiture et tu as les clés et on te dit démarre et tu as peur de démarrer. Tu dis non, j'ai peur. Mais c'est ta voiture, démarre. Mais tu as les clés, c'est pour toi. Non, j'ai peur. Quand quelqu'un a la connaissance, il n'a plus peur. Au début, quand tu venais d'avoir ton permis, tu roulais crispé sur le volant. D'accord? Tu attrapais la voiture comme si elle allait fuir. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu conduis, tu as une main sur le volant, une autre main au téléphone, une troisième main sur le passage des vitesses, et puis une quatrième main en train de parler à ton enfant là-bas, et puis tu es là, tu regardes même pas la route, tu fais plusieurs choses en même temps. Tu es tranquille parce que tu connais conduire. Alléluia. Bon, ceux qui ne savent pas conduire, allez passer vos permis, hein, parce que vraiment. Donc la connaissance libère. Connaître la vérité, elle vous rendra libre, a dit Jésus. Donc, quand tu comprendras comment t'enrichir, je t'annonce une excellente nouvelle, c'est que s'enrichir, c'est ce qu'il y a de plus facile dans la vie. Tu vas dire, pasteur, tu viens de dire quoi? C'est très facile de devenir riche. Du moins, prospère. Pasteur, c'est osé hein, ce que tu dis là. On va te voir toi-même. Ouais, défi. On se retrouve dans quelques années. On se retrouve dans quelques années. Vous direz, ah, notre pasteur là, il a commencé comme ça. Il a commencé à dire ça. Il est gars, il était sérieux dans cette affaire là. Regardez seulement. Alléluia. Et on va se retrouver, toi et moi, d'ici quelques années, et nous irons au bord de la piscine, siroter, en disant, tu as vu le ministère, ah, c'est cool, hein? Ah, vraiment, c'est trop bien. Hein, ben, les gars? Hein? Oh, tu te rappelles quand tu te battais comme piano, là? Maintenant, on a une palette de... Hein? Alléluia. Oh, monsieur Ngabolo, tu te rappelles quand il fallait aller à Port-Gentil et puis on prenait la nationale qui nous faisait poireauter pendant 4 heures à l'aéroport? Maintenant, on va à FreeJet et on prend notre jet privé. J'ose dire ça. Hein? Je suis en train de prophétiser sur moi-même au nom de Jésus. Oh, dis amen pour moi quand même. Oh, c'est quoi? Faut pas être jaloux. Il y en a, ils vont prendre ça et puis ils vont dire, voilà, oh, les faux enseignements qu'on donne à l'église, etc. J'ai dit, Dieu, oublie-nous. Laisse-nous tranquille. Il n'y a que les pauvres qui maigrissent, les riches qui grossissent. Alléluia. Dis avec moi, je suis cool. Avec ça. Voici ce que nous dit Proverbes chapitre 22 verset 2. Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui l'a fait l'un et l'autre. D'accord? Donc, Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Ce que Dieu veut voir, c'est qui va finir riche et qui va finir pauvre. Et notre problème également, c'est que la définition que l'on a de richesse, elle est erronée. Parce que quand on dit riche, les gens, tout de suite dans leur esprit, il y a une image qui se déclenche. C'est l'image du gars qui est vraiment opulent, quoi, dans la richesse. Et puis ils disent, oh, mais ça, c'est pas homme, c'est pas divin, c'est pas de Dieu, ça, c'est diabolique, tout ça. Mais qui t'a dit que la richesse se limite seulement à ça? Oui, la richesse, c'est être très confortable, c'est être prospère, c'est être bien, et même financièrement. Si Dieu te fait la grâce d'être très riche, tant mieux pour toi. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, Dieu appelle tout le monde ici, tous, chacun que vous êtes, à être confortable. Et à ne pas avoir les luttes de la vie. Il n'y a rien de humble à lutter dans la vie. Rien. Il n'y a aucune humilité dans la souffrance. Rien. Il y a juste du brisement et de la douleur. Donc si Dieu permet même que tu passes par la souffrance, Dieu est Dieu et il sait que ça fait mal. Et quand il discerne que tu es suffisamment humble, maintenant il permet que tu guérisses. D'accord? Mais il ne te laisse pas dans la souffrance parce qu'il sait que cette histoire-là, c'est pas bon. Mais toute la vie, tu souffres. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu commences à haïr Dieu. Mais toi aussi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux que je souffre comme ça toute la vie? Non, Dieu, c'est pas sa volonté qu'on souffre toute la vie. C'est pas sa volonté. Dieu est riche. Dis avec moi, Dieu est riche. Et Dieu connaît la vie du riche. La vie du riche, c'est une vie confortable, en bonne santé, qui ne manque de rien, qui prend soin de ses enfants, qui a de quoi acheter les médicaments, qui va en vacances pendant l'année. Dieu connaît ces choses-là. Pourquoi Dieu prendrait plaisir à ce qu'on soit pauvre? Tu as vu ça où? Qui t'a appris ça? C'est pour ça que j'ose dire que quand vous êtes dans une église où un pasteur vous enseigne les principes pour devenir encore plus pauvre, fuyez-le. Sortez de là. C'est un agent du diable. Car tu peux être agent du diable de manière consciente et inconsciente. Alléluia. Il y a quelques réalités à connaître sur la richesse. La première, c'est que seuls ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour s'enrichir n'y arriveront jamais. Ok? Donc, si on veut devenir très prospère, il faut savoir comment faire. D'accord? Si tu ne sais pas, tu n'y arriveras pas. L'enrichissement est à la portée de tous à condition de posséder une éducation financière adaptée au sujet et d'avoir la volonté d'y arriver, bien entendu. Donc, il faut être éduqué. Donc, on comprend que s'enrichir dans la vie, c'est toute une éducation. C'est toute une mentalité. C'est pour cela que les gens riches dans le monde sont des gens qui investissent énormément dans la connaissance. Les livres, les formations, ils investissent beaucoup là-dessus. Parce qu'ils savent que leur joyau dans la vie, c'est leur éducation, leur esprit, leur cerveau. Ce que le pauvre ne fait pas. Le pauvre investit très peu dans la connaissance. Les livres, les formations, les pauvres investissent très peu là-dedans. Passent plus leur temps à dépenser leur argent pour d'autres futilités. Le chemin vers la richesse commence par abandonner d'abord les a priori et les préjugés qui t'amènent à dénigrer la richesse. Des choses qu'on t'a enseignées quand tu étais enfant ou quand tu étais dans telle et telle église, on t'a enseigné tout un tas de choses qui t'ont amené à haïr la richesse et à diaboliser l'argent. Une chose par laquelle tu vas commencer sur le chemin vers la richesse, c'est de jeter à la poubelle tous ces préjugés concernant l'argent. Dis avec moi l'argent. Car l'argent peut être un excellent serviteur et ton meilleur ami. L'argent, ce n'est pas mammon. Amen. Car mammon est un démon. C'est une principauté qui a été révélée par Jésus. Et cette principauté utilise l'amour que les gens ont pour l'argent pour en faire des esclaves. Mais l'argent est totalement neutre. L'argent prend la couleur de celui qui le possède. L'argent prend la couleur du cœur de celui qui le possède. Donc, si tu as un bon cœur et que tu es sage et intelligent, l'argent sera un très bon et fidèle serviteur qui va faire beaucoup de petits. Donc, Dieu n'a aucun problème avec l'argent. La plupart des gens détestent l'argent en public, mais le convoitent en privé. Il y en a, ils sont assis à l'église ici, quand le pasteur prêche ce genre de sujet, ils disent, voici un pasteur qui prêche des mauvaises choses. Ce n'est même pas les choses de l'esprit. Et dès qu'il sort d'ici, il est là sous le soleil en train d'attendre le taxi. Et puis quand il voit quelqu'un passer dans une belle voiture, il fait, ah mon Dieu, si j'avais ça. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de convoiter. Si tu avais de l'argent, tu n'aurais pas ça. Tu ne serais pas à pied. Ou bien si tu avais écouté attentivement le pasteur, tu ne serais peut-être plus à pied. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? C'est que tout le monde veut gagner de l'argent, mais peu de personnes essaient vraiment de comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur profit, par peur et par ignorance. Car le méchant serviteur a dit quoi à son maître? Il a dit, Seigneur, j'ai eu peur, parce que je sais que tu es un homme sévère qui moissonne ce qu'il n'a pas planté et qui récupère ce qu'il n'a pas déposé. Et je l'ai caché dans un linge. J'ai eu peur, Seigneur. Et le roi dit, tu as eu peur, méchant. Tu es un méchant et mauvais serviteur, infidèle. espèce de. Quoi d'autre? La plupart des gens entrent dans la vie active en reproduisant les schémas parentaux qu'ils ont reçus depuis leur enfance. Ils travaillent toute la vie pour payer les factures, rembourser des crédits, payer les impôts et comptent sur l'État pour assurer leur retraite. Malheureusement, l'État-providence n'existe pas. L'État-providence n'existe pas. Oh, Gabonais, Anyambie. L'État-providence n'existe pas. Arrêtons de croire que l'État gabonais est là pour votre bien. Oh, Jésus. C'est dangereux ce que j'ai dit là. L'État gabonais a pour mission et prérogative de s'occuper de la population gabonaise. Mais l'État, c'est qui? L'État, ce sont des hommes comme vous et moi qui sont à la tête des administrations. Et l'homme est profondément pécheur jusqu'au jour où il rencontre Jésus-Christ et il peut peut-être être changé. Sinon, tant que les hommes pécheurs seront à la tête de l'État, l'État revêtira la couleur des hommes qui le dirigent, des hommes méchants qui n'en ont rien à faire de vous. Ah, Jésus, vraiment, quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Que leur salut n'est pas dans l'État. Hier, je rencontre quelqu'un qui venait de rentrer de l'étranger. Et puis, ça va, tout va bien, ça s'est bien passé, le voyage en Europe, tout ça. Oh oui, c'était bien. Ah, tu sais, j'étais un peu malade, mais ça va. Et puis, je ne sais pas, quelque chose qui n'a ni queue ni tête avec ce qu'on est en train de dire. Mais tu sais, moi, je souffre avec les histoires des logements sociaux. Là, moi aussi, les squatteurs sont chez moi, on a pris aussi mes logements sociaux aussi. Ils squattent chez moi aussi, on ne sait pas comment faire pour les chasser. Vous connaissez cette histoire en ce moment, non? J'ai dit, bon? Toi aussi, tu es dans les histoires de logements sociaux et tout, à qui on a... Oui, oui, ils sont là-bas. Et puis, chaque fois qu'on a voulu les chasser, ils sortent avec les armes, etc. J'ai dit, écoute, Dieu que tu dis ça, on fait quoi maintenant? Bah, on attend la solution que l'État va nous trouver pour pouvoir... faut bon que l'État fasse quelque chose. Hein. Vraiment, le pays là, c'est compliqué. Là, regardez, je fais, arrête. Oublie même l'État là, oublie ça. Commence à te battre pour construire ta propre maison. Parce que si tu attends l'État là, non, tu vas dans 10 ans encore là. Dans 10 ans encore là. Ta providence n'existe pas. L'État fabrique des pauvres, toujours plus dépendants de lui pour en faire des esclaves. Dieu fabrique des riches pour en faire des sources de bénédiction pour le royaume de Dieu. L'État ne vous donnera jamais les principes d'enrichissement. Jamais. Vous ne verrez jamais un haut fonctionnaire de l'État qui s'est enrichi, qui connaît les mécanismes de création d'entreprise et d'investissement. Et puis un jour, venez se pointer à la télévision. Gabonais, je vais vous enseigner ça. Même, parfois, même à leurs propres enfants, ils n'enseignent même pas ça. Pour votre raison, vous. L'homme noir, tu blagues avec lui. Il peut voir son frère noir comme lui crever là. Pas son problème. Donc, il faut comprendre que la richesse est accessible à tout le monde. D'accord? Et malheureusement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra t'enseigner ça. C'est toi-même qui vas aller t'asseoir et prendre le temps de t'auto-former, éduquer pour comprendre ces choses-là. S'il y a bien une chose, et on le verra quand nous parlerons d'investissement, s'il y a bien une chose que tu dois faire avant de t'engager sur le chemin de la richesse, c'est d'aller d'abord te former. Parce que quand tu vas avoir l'argent entre les mains, là, tu ne vas pas savoir comment faire pour le placer. Il faut d'abord aller lire des bouquins, prendre des formations dessus, lire la parole de Dieu, comprendre les mystères cachés du royaume sur la richesse, réécouter les enseignements du pasteur Luc Ondias en boucle dans ta voiture, jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête. Ouais. J'ai reçu 2 mails cette semaine. Le premier, c'était un qui était en Belgique, et le deuxième, c'était un autre qui était au Sénégal. Et le premier, en Belgique, il dit, pasteur, bon message là. Il dit, ma vie est... Il dit, c'est quel mot qu'il a utilisé? Révolutionné. Il dit, depuis que j'écoute les enseignements de la maison du bâtisseur, il dit, j'ai jamais entendu ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse, quoi. Et l'autre
qui était au Sénégal, lui, il dit, j'ai écouté l'enseignement, libérez votre potentiel. Il dit, mais mon Dieu, j'ai jamais entendu ça. Et en plus, dans cet enseignement, on a balancé. Hein. On a donné du lourd là-bas, les gars. Donc, tu sors le gars qui a galéré. Et qui a dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai galéré comme ça autant? Moi, si j'avais entendu ça plus tôt. Oh! Ah, Seigneur Jésus. Et celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré aussi. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on galère beaucoup moins. Amen. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. On avance. Je vais t'enseigner, je vais te parler plutôt, te montrer rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, 5 fausses croyances. Parce que le problème, en fait, que nous avons, ce sont nos croyances. C'est ce qu'on croit. C'est ce qui est imprimé dans notre esprit. C'est ce qui nous bloque. D'accord? 5 fausses croyances. La croyance numéro 1, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu as remarqué, juste en bas, j'ai mis une très belle voiture, ma future voiture. Alors, si l'argent ne fait pas le bonheur, cette voiture t'inspire-t-elle un tout petit peu de bonheur? Car c'est ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu t'attends à ce que je dise, en fait, l'argent fait le bonheur. C'est ça? Non, c'est pas du tout ce que je vais te dire, mon ami. C'est que, certes, le bonheur ne se limite pas à l'argent, d'accord? Mais l'argent, il contribue fortement. Donc, si l'argent, il contribue fortement, tu as besoin d'argent pour être heureux. Car, rappelle-toi toujours que le pauvre, dis avec moi le pauvre n'est pas heureux. Celui qui croit que le pauvre est heureux, même s'il voit ses enfants rire dans la maison, lui, il est pauvre. Les enfants jouent et rient. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas la conscience de la pauvreté. Ils regardent papa et disent, toi, tu vas t'occuper de nous. Papa, on n'a pas de problème. Peu importe les problèmes que tu as, à la fin de la journée, il faut qu'on ait notre lait, il faut qu'on ait notre bouffe, etc. Donc, on ne veut pas savoir comment tu fais. Ma fille Grace, qui a 7 mois, quand elle me regarde, elle ne comprend rien à ce que je raconte ici. Elle sait, elle... Vous n'avez pas vu un bébé quand il dort? Quand le bébé dort, il est serein. Il n'a pas de problème. Il n'a vraiment pas de problème. Et c'est comme ça que le riche dort. Je vous ai raconté la semaine dernière que Noé arrivait même à boire du vin nu dans sa tente. C'est-à-dire, il n'a pas de problème. Noé, il a bu du vin nu. Tellement il était à l'aise et sans problème. Toi, tu te lèves le matin. Oui, je dis, ah Seigneur, je te rends grâce. Ah, vraiment, Seigneur, la journée là, vraiment. Les problèmes t'accueillent. Tu préfères même dormir parce que quand tu dors, tu as un peu de repos. Mais il faut te réveiller. Tu vas même jusqu'à prendre des somnifères pour dormir longtemps. Il y en a, ils vont se perdre dans la régabe, etc., dans la bière, pour fuir les soucis. Mais les soucis seront toujours là. Donc, au bout d'un moment, il faut régler les soucis. Et c'est pour ça que tu as besoin d'argent. Amen. Hein? Donc, Ecclésiastes chapitre 10, au verset 19, il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Ce que dit Ecclésiastes, non? Et dans la version français courant, regarde ce qui est écrit. L'argent permet de tout obtenir. Tout. Tout ce dont on a besoin, l'argent le permet. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant que tu commences à poursuivre l'argent. Car fais attention, car Salomon précise aussi dans la Bible que celui qui commence à poursuivre l'argent, l'argent se fait des ailes et s'envole. Donc, je t'annonce qu'on ne poursuit pas l'argent. C'est le pauvre qui poursuit l'argent. Le riche ne poursuit jamais l'argent. C'est l'argent qui le poursuit. C'est très différent. Le pauvre, tu le vois le matin. Pour aller travailler. Le voilà dans les embouteillages. Je vais être en retard. Dès qu'il y a l'embouteillage sur 3 km, mais le voilà. Oh, avancez, non, il est déjà frustré le matin. C'est le riche, tu le vois dans sa voiture, belle, vite fumée. Il écoute sa radio, il te regarde. Il n'a pas de problème, il n'est pas pressé, il gère son temps, il est heureux, il est dans une voiture belle en cuir, climatisée, pendant que toi tu es là frustré dans ton taxi, tu le regardes. Il n'a pas de problème. Le
prophète Joël Francis Tatou a dit pendant la conférence mandat que le pasteur parle cuit, amène la parole de manière cuite. Le prophète amène la parole de manière crue. J'ai revêti la veste du prophète, j'amène la parole de manière crue. C'est pour ça que ça choque un peu. Alléluia. Donc l'argent permet de tout obtenir. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, c'est faux. L'argent contribue beaucoup au bonheur. Et pour certains, l'argent fera leur bonheur. Alors la dette que tu as là en ce moment qui t'empêche de dormir là, quand tu auras l'argent des mains, tu vas voir que c'est quoi le bonheur de dormir. Croyance numéro 2, c'est que l'acquisition de richesses se fait au détriment des autres. Faux. Car beaucoup de gens pensent que se faire de l'argent sur le dos des gens, c'est quelque chose de mauvais. Non, quand tu comprends les principes d'enrichissement, tu vas te rendre compte que les riches se font le plus souvent de l'argent sur le dos des gens. Comment? Eh bien, il n'y a rien de plus normal que de se faire de l'argent sur quelqu'un. Parce qu'en affaires, ça s'appelle un client. Quand tu fais du business et que quelqu'un te donne l'argent, tu viens de te faire l'argent sur le dos de qui? De celui qui t'a donné de l'argent. Tu lui as présenté quelque chose, en échange, il t'a donné de l'argent. Tu viens de te faire de l'argent sur lui. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle en affaires une transaction gagnant-gagnant est ce qu'il y a de plus normal. Gagnant-gagnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur comme le vendeur sont satisfaits. D'accord? Et ça, Salomon nous en parle lorsqu'il nous dit dans Proverbe 20 au verset 14, « Mauvais, mauvais !» affirme l'acheteur. Mais une fois parti, il se félicite. Il joue le gars qui n'est pas content, qui a fait une mauvaise affaire là. Mais dès qu'il s'en va, il a l'impression que c'est lui qui a arnaqué le vendeur. Mais tu ne peux pas arnaquer le vendeur. Il ne te vendra jamais à perte. Il te vendra toujours avec un profit. Tu as l'impression qu'il a vraiment baissé le prix. Quand tu lui dis non, enlève 10 000, enlève 20 000, enlève 50 000. Quand tu vois qu'il accepte d'enlever, c'est que sa marge était sérieuse sur toi. Mais il ne va jamais te vendre à perte. Car tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu dis non, 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 frère, moi je ne peux pas descendre. Parce que quand tu vas dire enlève 10 000, oh, d'accord. Enlève encore 10 000, oh, d'accord. Enlève encore 10 000, oh, frère, ça devient compliqué là, oh, d'accord. Il joue bien le comédien. Mais au bout d'un moment, quand tu dis enlève 20 000 encore, il fait alors, monsieur, vous voulez quoi? Il te laisse. Là, il est en train de perdre maintenant. Et là, tu vas te rendre compte que c'est plus la peine de négocier. Tu es obligé d'acheter aussi à ce prix-là. Alléluia. Et tu parles là en disant, j'ai fait une bonne affaire. C'est lui qui a fait une bonne affaire. Donc tu es sorti de là gagnant, mais lui aussi l'a gagné. Donc chacun a l'impression qu'il s'est fait de l'argent sur le dos de l'autre. Mais celui qui est sûr de s'être fait de l'argent sur toi, c'est le vendeur. Amen. La version semeur de la Bible dit, l'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire. Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Donc, ça aussi, c'est une fausse croyance. Il n'y a rien de plus normal. Donc, tu veux te faire de l'argent? Regarde le monde qui est là. Tu peux te faire de l'argent sur tout ce monde-là. Qu'est-ce que tu as à leur proposer? Voici tes premiers potentiels clients. Quand tu vas voir quelqu'un, lui, est-ce que tu sais que tu es un potentiel client pour moi? Ouais. Car l'argent dont tu as besoin, l'argent que tu cherches là depuis des mois là, il est juste à côté dans la poche de la personne qui est assise à côté de toi. Tu n'as juste pas trouvé le pont, c'est-à-dire la transaction qui va faire qu'il va prendre cet argent de manière volontaire et volontiers, il va te le donner. C'est pour ça qu'on est fauché, c'est qu'on n'est pas intelligent. Le taximan se réveille le matin à 6h. Il prend son taxi, il va dans les rues de Libreville, il est païen, mais il a plus de foi que toi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, il va rentrer avec au moins 50-60 000. Comment le taximan sait qu'il va rentrer sûr et certain? Il te met au défi sûr et certain, il rentre avec de l'argent. Même quand tu te lances dans le business de taxi, il s'engage à te dire, je t'emmène au moins 24 000 francs ou 25 000 francs. Le reste, c'est pour moi. Il sait qu'il va te ramener ça. Mais toi, tu te lèves le matin, quand tu as besoin de trouver 10 000, tu es là, tu frustres. Oh Seigneur, même 10 000, je n'arrive pas à trouver. C'est compliqué. Quelle est la différence entre toi et le taximan? C'est que lui, il a créé un pont. Son pont s'appelle le taxi.
Et quand il roule dans la rue, il rencontre plein de gens qui sont en problème. Des gens qui doivent se déplacer. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant une mode dans notre pays. C'est que quand les taximans arrivent, ils te regardent pas. Tu dis le nom, ils arrêtent. Il y a un autre.
Non.
Après, ils te regardent pas. Pas klaxonner, monter. Comme un chien, quoi. Ils te regardent même pas. Ils te klaxonnent. Ils te méprisent. Tellement ils savent que tu as besoin de prendre son taxi. Tu veux pas. Oh. Et puis, ils s'arrêtent. 1000 francs. Bon, 1500. 2000, ils s'en vont. 2500, vous. Ben. D'après vous, qui contrôle la situation là? C'est lui. Parce qu'il sait que tu as besoin de lui. Et en fait, la vie, c'est ça. Tout ce qu'il faut, c'est que tu trouves quelque chose qui va faire que les gens vont te supplier à genoux pour que tu leur donnes ça. Un peu comme Ésaü devant Jacob. Donne-moi la soupe. Et Jacob dit, tu veux ça? Il dit, j'ai faim. Donne-moi ton droit d'aider. Je m'en fous, prends le droit d'aider. J'ai trop faim, donne-moi ça. Il ne se rendait même pas compte de la chose précieuse qu'il avait entre les mains. Et toi, quand tu rentres, ou bien quand il fait chaud, et puis tu es convaincu, ça m'est déjà arrivé. J'étais une fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, parce que pendant un moment, je n'avais pas, vraiment pas de voiture. Et je travaillais. Et je me mettais souvent au niveau de Air France, là, où c'est difficile d'avoir le taxi. Et je suis là sous le soleil. Et je vois les gens qui proposent des petits montants, 1000 francs, 1500. Tu sens que des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. Mais les taxis passent et puis on transpire. Moi, je suis avec mon costume et je transpire. Je dis, mais c'est pas possible, ça. Et je suis là, je fais comme tout le monde. Ben, 1000 francs aussi, moi aussi, je galère. 2000 francs. Je vous assure, bien aimé, une fois, le jour-là, j'en avais tellement marre, quoi. Le taxi qui est venu, j'ai dépassé tout le monde comme j'assais, j'ai pris les devants. 10 000. Il m'a regardé. Oh. Il m'a fait remonter. 10 000. Quand j'ai dit 10 000, là, je vais remonter, monsieur. Et je suis monté. Et quand je monte là, c'est plus une course. Là, c'est un carrosse royal. 10 000. Et là, je suis parti. J'ai dit, tu t'arrêtes pas en route. Ah, mon frère, pour 10 000, mais je m'arrête pas, toi aussi. Alors là. Là, c'est 10 courses en même temps, là, que j'ai pris. Tellement j'en avais marre du soleil, quoi. Eh bien, les clients, ils sont dans cette attitude-là. Les gens dans la vie sont comme ça. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours aussi pauvres. Parce qu'en face, ce sont les autres qui tiennent les rênes. Troisième croyance, c'est que s'enrichir demande beaucoup de temps. Ce qui est faux. Pour devenir riche, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Je t'annonce que si tu comprends les principes d'enrichissement, en 2 ans, je te donne deux. En 2 ans, tu peux devenir très riche. Ouais. Lance-toi un défi. Donne-toi 3 ans. Donne-toi 5 ans maximum. Et dis, Seigneur, je prends l'engagement devant toi. Que ces 5 prochaines années, je vais m'engager sur le chemin de la richesse. Je vais comprendre ces histoires-là. Et puis, je vais mettre ça en pratique. Et dans 5 ans, je suis un homme très, une femme très prospère dans ce pays-là. Engage-toi. Parce que le riche, c'est comme ça qu'il fonctionne. Avec un plan d'affaires qu'il a déjà conçu dans son esprit et il sait où il va. Le pauvre, il n'a aucune visibilité sur son avenir. S'enrichir ne demande pas beaucoup de temps. Alléluia. Quelle que soit la manière, s'enrichir ne prend pas plus de temps que s'appauvrir. Tout comme l'enrichissement demande ne requiert pas beaucoup de temps, de même, l'appauvrissement ne requiert pas beaucoup de temps. On est là, si tu sors de cette salle en disant tout ce qu'il a raconté, je m'en fiche, je t'annonce que tu seras pauvre. La pauvreté est prévisible, la richesse est prévisible, la réussite dans la vie est prévisible, l'échec est prévisible. Regarde comment quelqu'un gère son argent et tu peux prophétiser sur sa vie en disant s'il sera riche et prospère demain ou sinon ou s'il sera pauvre. Si vous voulez avoir la qualité de vie d'une personne, regardez comment il gère son argent. Regarde ce que Proverbe, Salomon nous dit. Salomon dit Proverbe verset 20, chapitre 20 verset 13.
Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Si tu aimes dormir, tu deviendras pauvre. Ouvre grand les yeux et tu mangeras à ta faim. Yeah. Si tu aimes dormir, tu deviendras pauvre. Faut pas aimer dormir. Dormir ici là, c'est non seulement dormir dans un lit, mais si tu aimes aussi dormir dans la vie. Si tu aimes trop écouter les chansons du style perdu dans le sommeil, perdu dans le sommeil, perdu dans le sommeil, tu seras pauvre, perdu dans le sommeil. Non, parce qu'une fois j'étais dans ma voiture et puis je voyais un gars qui écoutait ça à fond, perdu dans le sommeil. Et je le regarde, je fais. Puis je dis, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il écoute là? Dans le sommeil. Ça, c'est un Gabonais qui a encore écrit la chanson là. Et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Un pauvre qui fait de la musique, qui écrit des choses comme ça. Perdu dans le sommeil. Et puis, ils sont là tous en train de danser sur la piste. Avec les petites. Perdu dans le sommeil. Je les regarde en tant que fils de Dieu. Je dis, Seigneur, le monde est perdu vraiment. Oh, ça, c'est grave. C'est des morts vivants quoi, qui dansent sur la piste. Perdu dans le sommeil. Je dis, ah, vraiment. Et ils sont pauvres. Et dès qu'ils ont fini là, mon frère, ça va. Ah, on est là, un peu. Je te maintiens, tu sais, la vie c'est compliqué. Hein? Oh Joe, ils sont perdus dans le sommeil. Regarde ce que Paul rajoute, Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, voyons, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. D'accord? Rachète le temps, maximise-le, investis dans le temps, en connaissance, pour pouvoir réussir dans la vie. Croyance numéro 4, il faut déjà avoir de l'argent pour s'enrichir. Fou! Beaucoup de gens disent, ah mais pour devenir riche, pour commencer à être sur le chemin de la richesse, il faut commencer bien avec quelque chose. Non, non, tu n'es pas obligé de commencer avec quelque chose. Car quand tu crois ça, tu es en train de dire que les pauvres sont condamnés. C'est une fatalité à mourir pauvre. Pourtant, quand tu t'intéresses aux gens les plus riches du monde dans le classement Forbes, tu vas te rendre compte que plus de la moitié de ces gens ont commencé avec rien. Ils n'avaient pas plus de chance que les autres. Ils avaient juste pris une décision. Ils ont posé des actes. Ils ont rendu riches. On n'a pas besoin d'argent pour commencer à s'enrichir. On a juste besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de la sagesse et un désir ardent d'y arriver. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 27 au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de sa gloire. Tout comme j'ai un désir ardent d'habiter dans la maison de Dieu, tu dois avoir un désir ardent de réussir et d'être prospère dans la vie. Car la prospérité ne tombe pas du ciel comme ça. Et enfin, croyance numéro 5, c'est qu'il faut absolument avoir un bon métier pour prospérer. Faux! On n'a pas besoin d'avoir un bon travail pour être prospère dans la vie. Non! Pas du tout. Le riche n'a pas de travail pour s'enrichir, mais il utilise intelligemment son travail comme actif pour s'enrichir. Car ton travail, c'est ce qui te rapporte de l'argent chaque mois. Et Dieu dit, tu commences avec ce que te rapporte ton travail pour commencer à planter les premières semences de la richesse. Mais nous, on prend notre argent et puis on le dépense, on le dilapide à tout va dans le mois. Et puis après, on dit, Seigneur, c'est compliqué, c'est Dieu. Dieu dit, mais non, tous les mois, grâce à ton travail, je te donne 100 000, je te donne 500 000, je te donne 400 000. Commence avec ça. Mais Seigneur, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de charges. Tu feras finir à pauvre. Je vais vous enseigner quand nous parlerons lors des autres dimanches. Je vous enseignerai pourquoi il est important de se payer en premier. Pourquoi il est important de se payer en premier? Alors on passe plus notre temps à payer les autres. Et non nous-mêmes. Le pauvre a un travail, le riche a une expertise. Voilà la différence entre les deux. Le pauvre a un travail, le riche, c'est un expert dans un domaine. C'est ce qui le rend riche. En fait, tu n'as pas besoin d'un travail, tu as besoin de trouver une, d'avoir une expertise. La Bible nous dit, Proverbe 22, verset 29, « Si tu vois un homme habile, de l'hébreu maïr, qui veut dire expert dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs, des pauvres. Les gens qui deviennent riches sont les gens qui ont développé une expertise dans un secteur d'activité et qui ont su le mettre au service des autres et gagnent maintenant beaucoup d'argent avec. Quand vous lisez les magazines People du monde, vous trouverez très très rarement dedans des stars qui se lèvent le matin pour aller travailler pour quelqu'un. Ce sont des riches qui ont développé une expertise dans un domaine, un sport, de la musique, dans une entreprise, etc. Ce sont des gens qui sont experts. Ce ne sont pas des employés. Jamais vous allez ouvrir un People et vous allez voir un Britney Spears ou un sportif connu qui se lève le matin pour aller travailler pour quelqu'un. Ce sont des gens qui ont développé une expertise. Et ils vendent ça cher. Donc aujourd'hui, tu peux être employé dans une entreprise. Tu peux même être un très bon employé. Mais à côté, tu dois développer une expertise dans un domaine pour pouvoir gagner plus d'argent. Et ton travail n'est qu'une première source d'argent pour pouvoir investir dans cette expertise-là. Tout à l'heure, on parlait de connaissances et de formation. Combien de fois tu as pris ton argent pour aller semer dans une formation pour te développer? C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? Et après, tu dis, Seigneur, je veux la promotion. Mais si ton CV était toujours au même niveau depuis plusieurs années. Car on paye cher les gens qui en valent la peine. Alléluia. Donc, il faut une expertise. Amen. Dis à quelqu'un près de toi, mon argent est dans ta poche. Ouais. Faut que je le récupère. Allez, pour finir notre enseignement, je vais commencer à te parler des 5 piliers du processus divin d'une bonne gestion financière. Suis bien cet enseignement-là, parce qu'on va y rester, pendant un bon moment. Bien entendu, on ne pourra pas le finir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir juste une toute petite partie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir bien gérer son argent dans la vie. Bien gérer son argent. Ce que je suis en train de vous donner depuis des semaines là, ce sont mes cours à l'école du Saint-Esprit. Car moi, demandez à ma femme, parfois elle me trouve dans la chambre, cela depuis. Si vous rentrez dans mon bureau en ce moment, il y a ça de. J'ai interdit à la ménagère de rentrer. Je passe mon temps maintenant à étudier. Je dis là, je suis trop déterminé quoi. Le processus divin d'une bonne gestion financière. Parce que savoir gérer son argent et le dépenser tous les mois obéit à un processus. On ne dépense pas son argent n'importe comment. On ne l'investit pas n'importe comment. Alléluia. Mais je vais d'abord donner quelques fondements d'abord. Le premier fondement que je donne, je le base sur Ecclésiaste chapitre 5 au verset 12. Regarde ce qu'Ecclésiaste nous dit. Il dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Hein? Qu'est-ce que Salomon vient de dire? Salomon, il est en train de nous dire ici qu'il y a quelque chose qui est gravissime sur la terre. C'est quand des gens travaillent toute la vie pour accumuler des richesses. Ok? Et tout ça, il arrive que ces richesses se perdent lorsqu'il y a un événement fâcheux. Un 11 septembre 2001 arrive. Et boum, il n'y a plus rien. D'où vient le fait que le malheur peut venir dilapider tout ton argent que tu as pourtant accumulé toute la vie? Eh bien, parce que tout simplement, les gens accumulent de l'argent grâce à ce qu'ils ont appris dans la vie, mais ils n'ont pas la protection divine pour protéger cet argent. Et le malin vient, celui qui dévore, et il vole. ce qu'il nous dit ici. Et il dit, ça, c'est un mal grave sur la terre. Comment quelqu'un va travailler toute sa vie? On a vu des gens qui étaient multimillionnaires en dollars et après le 11 septembre 2001, ils étaient en train de vendre des maïs dans la rue. Ils avaient tout perdu. Alléluia. Donc, la grâce et la protection divine de ces richesses, c'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi. On peut gagner de l'argent, mais la désobéissance au principe divin de gestion financière nous attirera toujours le malheur dans nos finances. Beaucoup de gens gagnent de l'argent parmi nous, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont toujours pas d'argent. Ils travaillent, ils n'arrivent pas à économiser, ils n'arrivent pas à mettre de côté, ils n'arrivent pas à construire leur maison. Ils n'y arrivent pas, pourtant ils travaillent. Parce que tout simplement, il y a un problème dans le processus. Deux, la satisfaction ne vient pas de la peine qu'un homme se donne pour gagner beaucoup d'argent ou pour accomplir de grandes choses dans la vie. Elle vient de l'obéissance, directement l'obéissance, et d'une bonne gestion qui permet de garder son argent. Garder son argent, là, c'est très important parce que je nous ai parlé, et on va y revenir plus loin, de l'intelligence financière, d'avoir une bonne éducation financière. Quelqu'un qui est intelligent financièrement, c'est quelqu'un qui sait garder l'argent. Quelqu'un qui n'est pas intelligent financièrement, c'est quelqu'un, bien qu'il ait beaucoup d'argent, se retrouve toujours à la fin avec rien. Le riche, à la fin, pourquoi il est toujours celui qui gagne? Parce qu'à la fin, il est celui qui reste avec l'argent. Quand nous allons parler d'investissement, je vous montrerai comment quelqu'un fait pour acheter une voiture sans sortir un seul billet. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Trois, le péché à l'origine des difficultés financières est souvent un mauvais usage de l'argent que Dieu nous donne, et non le diable. Le plus souvent, on accuse le diable, on dit que c'est le démon, etc., qui vole notre argent. Oh, on a des problèmes, etc., etc., avec le péché. Non, souvent, en fait, le péché, c'est une mauvaise gestion financière de notre argent. Alléluia. Donc, tu veux être plus prospère dans la vie au niveau financier? Commence à obéir au principe de gestion financière. C'est aussi simple que ça. Les cinq piliers du processus divin d'une bonne gestion financière, ils reposent sur ces points. La dîme, dis moi la dîme. L'épargne, dis moi l'épargne. La semence et les offrandes. L'investissement et les dépenses intelligentes. La dîme, l'épargne, les semences et les offrandes, les investissements dans des actifs, et je vous expliquerai la semaine prochaine ce que c'est qu'un actif, et dépenser de manière intelligente son argent. Alléluia. Imprime-toi bien ce processus dans l'esprit. Car la plupart d'entre nous, on a des problèmes avec notre argent parce qu'on ne suit pas ce processus-là. Si tu veux devenir très prospère dans la vie, tu es là, tu es jeune, tu vas encore à l'école, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, au nom de ta destinée et au nom de tous les parents qui portent le même nom que toi, vraiment, imprime ce schéma-là. Sinon, tu finiras pauvre dans la vie. Imprime ça, colle ça dans ta chambre, colle ça sur ton lit, colle ça dans ton iPad, dans ton téléphone, colle ça sur ton cartable, colle ça partout, apprends ça par cœur. Si tu as du problème à apprendre ça par cœur, prends une craie et va au tableau et écris 300 fois dîme, épargne, semence, offrande, investissement, dépense, dîme, épargne, semence, offrande, investissement, dépense, dîme, épargne, semence, offrande, investissement, dépense, dîme, épargne, semence, offrande, investissement, dépense. Imprime ça dans ton esprit. De sorte que chaque fois que l'argent arrive entre tes mains, dîme, épargne, offrande, investissement, dépense.
Non, mais tu me donnes l'argent. Il y a tel chat, il y a le loyer à payer. Non. Dîme, épargne, offrande, investissement, offrande. Deviens un robocop dans la chose. Dîme, épargne, semence, offrande, investissement, dépense. Et dépense vient à la fin. Alléluia. Un mauvais chrétien, c'est quelqu'un qui pense dépense, après je cherche l'argent pour investir. Non. Dépense, c'est à la fin. Jamais tu vas prendre un DVD ou un Blu-ray et puis tu vas à la fin du film et puis tu commences à regarder à reculons le film. Non, ça n'existe pas. On commence par le début. Les jeunes qui allaient encore à l'école, on ne vous enseignera jamais ça à l'école. On va vous enseigner les maths, la géographie et faire de vous d'excellents employés. Mais on ne vous enseignera jamais ces choses-là. Donc même en sortant de l'école, si vous travaillez pour une entreprise et que vous avez un salaire, obéissez à ce processus et vous verrez comment vous allez prospérer financièrement. Amen. Même si aujourd'hui tu ne gagnes que 1000 francs parce que tu fais watch ou bien je ne sais pas quoi, dès qu'on te donne 1000 francs, tous les dimanches, ramène dîme 100 francs, boum. Épargne 200 francs, boum. Semence, offrande du mois, tu enlèves là-bas 100 ou 200 francs. Ensuite, investissement, tu mets dans une enveloppe pour investir et le reste, je dépense les bonbons, les chocolats et tout ça. Alléluia. Tu préfères pour ta vie, c'est la question que je te pose, elle est marrante. Tu préfères pour ta vie t'asseoir à la maison du bâtisseur et écouter ça pour ta vie et être prospère, ou bien aller dans une église où on te parle chasser les démons. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères quoi? Parce que je t'assure que quand tu vas être super riche et à l'aise, même les démons vont se soumettre. Parce qu'il y a une onction dans la richesse. Oh là là, oh, quand tu es devant un démon, quelqu'un qui est possédé, que tu dois chasser un démon, mais tu es riche, mais il y a une onction qui descend, tu as peur de rien. Parce que la Bible dit que la richesse est pour le riche une tour forte. Quand tu as remarqué que s'il y a bien des gens qui n'ont, tu as toujours l'impression qu'ils n'ont pas de problème dans les choses de l'esprit, c'est les riches. Pourtant, ils ont aussi des problèmes. Et ils arrivent à supporter plus facilement à cause de leur richesse. Alléluia. Les cinq piliers du processus divin, de gestion d'une bonne gestion financière. Tu vas remarquer que ces cinq piliers font partie d'un processus. Mais ce que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a ouvert les yeux, c'est que ce processus se décompose en plusieurs phases. Dis-moi des phases. La première phase, c'est la phase de protection. Dieu veut d'abord que le processus commence d'abord à protéger, par protéger ton argent. Et pour protéger ton argent, tu vas te rendre compte que cette phase se décompose en deux dimensions. Dis avec moi deux. La dimension spirituelle et la dimension naturelle. Tu protèges ton argent d'abord au niveau spirituel grâce à ta dîme et au niveau naturel grâce à l'épargne. Tu te sécurises d'abord dans l'esprit et ensuite tu te sécurises dans le naturel. Vous me suivez? Ensuite, tu passes à l'autre phase du processus. L'autre phase du processus, c'est la phase investissement. Dis avec moi investissement. Cette phase aussi se décompose en deux parties, la partie spirituelle et la partie naturelle. La partie spirituelle, ce sont les semences et les offrandes que tu fais dans le royaume. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Faites-vous des trésors dans les cieux, là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire, et non pas sur la terre. Et la phase naturelle d'investissement, c'est celle où tu investis dans des actifs. Pierre, immobilier et autres. Tout ce que tu veux. Et on enseignera sur ces choses-là. Amen. Et la troisième phase
une bonne gestion financière, c'est les dépenses. Tu vas me dire, pasteur, pourquoi dans cette phrase il n'y a pas deux? Eh bien, parce que dans le royaume de Dieu, au niveau spirituel, on ne dépense pas d'argent. Tu as déjà vu un roi qui dépense de l'argent? Tout est gratuit pour lui. On ne dépense que sur la terre. C'est pour ça que cette phase n'est composée que d'un pilier. Alléluia. Dis avec moi, protéger mon argent, investir mon argent et dépenser mon argent. Encore une fois, protéger mon argent, investir mon argent et dépenser mon argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu protèges ton argent en payant ta dîme, en épargnant. Ensuite, deux, tu investis en semant des offrandes dans le royaume de Dieu et en investissant. Tu peux investir dans un business, dans des actions, dans tout ce que tu veux. Et ensuite, tu dépenses pour payer ton loyer, les couches de tes enfants et tout ce que tu veux. Si tu t'amuses à chambouler tout ça, tu chamboules ta gestion financière et tu vas avoir des problèmes. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens, pasteurs, sont fauchés dans l'église? Parce que, voici le profil numéro 1. Lui, il paye sa dîme. Ok? Mais tu as des chrétiens qui payent leur dîme, mais ils n'épargnent pas. Ils payent la dîme, ils n'épargnent pas. Ce qui fait que, au niveau spirituel, il n'y a pas de problème. Il est en règle avec le gouvernement du royaume des cieux. Mais les anges disent, mais frangin, nous on te protège, il n'y a pas de problème, mais épargne aussi là-bas. Parce que nous, quand on veut déverser la bénédiction, on déverse ça sur quoi? Les apôtres viennent dire à Jésus, renvoie-les. Jésus-Christ leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'avez-vous? Nous n'avons rien, juste deux pains et trois poissons. C'est déjà une chose, prenez ça et ensuite on multiplie. Sauf que si les disciples avaient dit, Seigneur, nous n'avons rien, ben, ils vont crever de faim. Donc quand les anges voient que, non mais ils payent sa dîme ce gars-là, ils payent sa dîme, mais, bon ok Gabriel, va regarder dans le compte bancaire, vous, mais il n'y a rien, mais comment ça il n'y a rien, mais on ne peut pas commencer, il n'y a rien pour commencer, il n'a même pas 10 000 le gars, mais tous les dimanches, il est fidèle, il donne sa dîme, c'est comme ça que vous avez maintenant des histoires dans les églises, oh, vos églises là, où on vous dîme tout le temps, je vois ma soeur, tous les dimanches, elle va donner sa dîme, mais elle n'a jamais rien, mais elle ne met jamais d'argent de côté. Donc les anges ne peuvent, n'ont rien pour commencer le business. Ils n'ont rien. Elles n'épargnent pas. Donc tu peux payer ta dîme toute la vie avec une grosse bible d'études et tout, priant en langue. Pasteur, vraiment, oh ma dîme, bénissez-moi. Mais dans le compte, il n'y a rien. Le diable se rit et il dit, il a rien compris. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, ça va. Mais au niveau naturel, il y a une porte qui est ouverte, mon ami. Tu n'épargnes pas. Et celui qui n'épargne pas, au jour des problèmes, il ne sera pas épargné. La phase 2, voici le profil. Lui, il ne paye pas sa dîme. Et il donne des offrandes tout le temps. Il y a une porte qui est ouverte ici. Et je vais vous l'expliquer. C'est qu'au niveau de la protection, il n'est pas protégé, le gars. Et tous les investissements qu'il fait sont dilapidés. Parce qu'on les lui vole. Il y a tout le temps, comme Ecclésiaste vient de nous dire, tout le temps des situations fâcheuses qui vont arriver et qui vont détruire ses investissements. Parce que spirituellement, ce n'est pas bon. Il y a un pilier là, il y en a. Beaucoup d'entre nous, les finances là, elles sont bancales. Toutes les, il y a des portes ouvertes et des portes fermées. Il y en a d'autres. Ils payent la dîme, ils n'épargnent jamais, ils n'investissent jamais et ils passent son temps à dépenser. Je vous annonce que c'est 95% des chrétiens. D'accord? Ils payent leur dîme et ils passent leur vie à dépenser en espérant qu'un jour Dieu va les bénir. Je dis, mais non. Dieu dit, mais tu payes ta dîme, mais. T'épargne pas, t'investis pas. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui sont fidèles dans les dîmes. Ils donnent, même parfois, ils donnent 200 000 francs de dîmes.
Mais question offrande là, jamais il va donner une offrande. Donc il a l'impression que parce qu'il donne la dîme et que sa dîme est beaucoup, il n'a pas besoin de donner les offrandes. Faux. Ça ne fait pas partie du même compartiment. Les offrandes sont les investissements. Les offrandes et les semences sont des investissements dans l'esprit. Tu investis. D'accord? Et tu sécurises tes investissements quand tu payes ta dîme et quand tu épargnes. Donc, les deux là sont liés. Les deux là sont liés. Car c'est grâce à ton épargne que tu pourras investir. C'est en protégeant tes finances que tu pourras semer. Alléluia. Donc, il y en a qui passent leur temps à dépenser de l'argent. Ils travaillent dur. Ce sont de bons chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Ils payent leur dîme. Et un jour, quand il y a un orateur invité qui vient à l'église, qui est tout beau, qui prêche bien comme un prophète Joël Francis Tatou, et que le dimanche il dit, tout le monde se met là, on a eu 2 heures de queue parce que tout le monde venait. Alors, puis le prophète a dit, on sème. Bon, on sème, on sème. C'est cool, vous semez. Mais ici, vous faites quoi? Donc, il y en a qui viennent avec des semences violentes hein, le jour du séminaire. Oh, je semais. Miracle monnaie, les unités dans mon portable. C'est cool, les unités dans ton portable. Ok, t'en fais quoi de ces unités? Alors, oh, je donne les temps au culte. Non, mais prends ça et investis ça dans autre chose. Est-ce que vous me suivez? Donc, le processus, il est super important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut respecter le processus. Car celui qui pêche sur un des piliers, c'est une porte qui l'ouvre. D'accord? Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va finir avec la dîme. C'est le premier pilier. On a encore 5 minutes et ensuite on va clôturer. Dis avec moi la dîme. Les gens, ils pensent que la dîme, c'est juste une histoire d'argent. Et parce que je paye ma dîme, Dieu est obligé de me bénir. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu bénit. Amen. Alors, lis-moi l'enseignement en pratique tout de suite. Dieu bénit celui qui respecte le processus. Et je pose la question au Seigneur en lui disant, mais Seigneur, les riches qui sont dans le monde, qui sont païens, ils ne donnent pas de dîmes. Dieu dit, pour beaucoup d'entre eux, si. Mais à quel moment ils donnent leur dîme? Dieu dit, mais fils, tu penses que la dîme, c'est seulement venir donner de son argent à l'église le dimanche? Les vrais riches dans le monde sont des gens qui font toujours des dons à des œuvres caritatives. C'est leur manière à eux de payer leur dîme. Parce qu'ils considèrent que les œuvres caritatives sont des œuvres qui ont été mises en place pour pouvoir prendre soin des démunis et des pauvres. Et c'est leur manière à eux d'exprimer leur compassion vis-à-vis des pauvres. Parce que tu y trouveras dans le livre de Lévitique que la dîme, dis avec moi la dîme est faite, oui c'est vrai pour le sacrificateur qui peut être le pasteur et qui peut se servir dans les dîmes, mais la dîme est surtout faite pour la veuve et l'orphelin. Donc les gens qui disent toute la dîme de l'église c'est pour le pasteur, hérésie, c'est faux, c'est un mensonge. Donc dès qu'on a fini de faire les dîmes après l'offrande, voilà maintenant, on voit maintenant 2 filles qui viennent, qui prennent tout le panier de dîmes. Tiens papa, prends toutes les dîmes. Non, non, il a droit, ok, mais la bonne gestion financière, intelligente et sage, n'est pas qu'il mange tout ça. C'est qu'il peut se servir dedans, ok, mais il prend une bonne partie de ça pour investir dans les œuvres pour les plus faibles. Ça sacre ça la dîme. Les offrandes servent à la gestion des dépenses de l'église. Mais la dîme sert, oui, pour pouvoir financer des aides, l'homme de Dieu, etc. Ok, il a droit et il n'est pas obligé. Et d'ailleurs, en partage, je vous annonce que moi, j'y touche pas.
D'accord, quelqu'un m'oblige à toucher. Mais sinon, on prend ça et on investit ça dans les œuvres pour les plus faibles. C'est ça que ça sert à la dîme. C'est pas, vous êtes tous là, on bourre le crâne sur l'onction, le Saint-Esprit, etc. Pendant ce temps, lui, il a des costards sur mesure à 300 000 francs ou 500 000 francs, chaussures de 50 qui brillent, pendant que tout le monde est pauvre dans l'église. Hérésie. Donc la dîme, elle a un rôle dans le processus. Alléluia. La dîme fait partie de la phase 1 qui consiste à protéger son argent. Et il y a un mystère derrière la dîme. Proverbes chapitre 3 au verset 7 nous dit: ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Amen. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Alléluia. Cette parole est divisée en deux. Premièrement, non, trois. Premièrement, ne sois pas plus sage que Dieu. D'accord? Ça c'est un. Deux, détourne-toi du mal. Pourquoi? Parce que ce sera une bonne médecine pour ton corps et ton être. Crains le Seigneur. Parce que quand tu crains le Seigneur, tu obéis à ses principes. En obéissant à ses principes, tu te sécurises en termes de santé. Tu sécurises ton être. Dis-moi mon être. Ok? Et tu vas comprendre pourquoi. Et ensuite, tu l'honores avec, dans l'aspect naturel maintenant, tu l'honores maintenant avec tes revenus. Pour qu'il puisse bénir tes finances. Pourquoi Salomon nous dit ça? Parce que tout simplement, la dîme, c'est le système de protection sociale du royaume des cieux. Dis avec moi le système de protection sociale. La dîme a toujours été liée à l'argent. Mais en fait, on ignore ses vertus au niveau, en termes de santé spirituelle. Parce que tu vas te rendre compte d'une chose. C'est que la phase de protection, elle repose sur la dîme et l'épargne. Mais en ce qui concerne la dîme, Dieu va utiliser la porte de la dîme pour bénir tes finances, mais aussi pour te protéger ta santé. Parce que tout simplement, Satan sait que pour commencer sur le chemin de la richesse, tu as besoin d'être en bonne santé. Donc, Satan sait que s'il attaque ta santé, il va obligatoirement toucher ta dîme. Car celui qui est en mauvaise santé, obligatoirement ses finances sont affectées et il ne peut plus payer normalement sa dîme. Et quand il ne paye plus normalement sa dîme, Dieu ne peut plus le bénir. Alléluia. La dîme, c'est la cotisation pour la sécurité sociale du royaume des cieux. Aucune sécurité sociale ne protège quelqu'un qui ne cotise pas. Donc celui qui ne paye pas sa dîme, il n'est pas protégé spirituellement. Et l'ennemi là. La dîme est la dimension spirituelle du processus divin d'enrichissement qui apporte la protection du premier pilier, la santé spirituelle de notre être, mais aussi de nos finances. Donc Dieu a d'abord besoin de te garantir qu'il te protège, toi. Et ensuite il protège tes finances. Alléluia. Je t'assure, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que beaucoup de gens qui ne donnent pas leur dîme, ils ont beaucoup de problèmes en termes de santé. Beaucoup. Les riches du monde, ils ont de l'argent, mais beaucoup, ils sont très malades. Beaucoup. Oh, ici, à Libreville, au Gabon, oh là là, ça pleut. Des grands types qui sont très malades. Ils ont beaucoup d'argent. Mais en termes de santé, vous allez vous rendre compte qu'ils n'arrivent pas à guérir de leur maladie. La porte est ouverte. Alléluia. Payer sa dîme, premièrement, te garantit la sécurité sociale dans le royaume des cieux. Vous vous rappelez de l'enseignement que j'avais donné, comprendre le pouvoir institutionnel du nom de Jésus dans la guérison. Ça faisait partie de la série Le mystère de la guérison. Je vous recommande d'aller acheter cette enseigne, cette série, et de réécouter ce que j'avais dit sur la dimension institutionnelle du nom de Jésus. Et j'avais parlé de différents types d'institutions, les institutions internationales, les institutions scolaires, les institutions pénales, etc., etc., les institutions économiques, etc. J'avais donné trois dimensions de des institutions, la vie à la dimension politique, parce qu'il y avait d'abord le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. J'avais donné la dimension politique, ensuite j'avais donné la dimension institutionnelle, sociale plutôt, politique, sociale et économique. C'était les trois dimensions que j'avais données, économique, sociale et politique. Et ici on est en train de parler de la dimension sociale de cet enseignement-là. Le nom de Jésus est cette institution qui protège et garantit nos droits et privilèges sociaux dans le royaume, y compris financiers. Donc, une institution te garantit qu'elle va te protéger quand tu l'honores. Si tu n'honores pas Jésus en donnant la dîme dans le processus d'enrichissement, il ne peut pas te protéger. Alléluia. Ne pas payer sa dîme équivaut à ne pas avoir de sécurité sociale dans le royaume de Dieu et être vulnérable face au diable. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans Malachie 3, 7, et maintenant on trouve tout son sens dans ce passage que les chrétiens récitent par cœur sans en comprendre le sens. Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous désobéissez, en d'autres mots. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Non. Vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes. Dis avec moi toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Amenez toutes les dîmes, dis avec moi toutes les dîmes. Toutes les dîmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire toute entrée que tu as, tu dois apporter la dîme. Pasteur, mais ce n'est pas juste mon salaire. Non. Toute entrée d'argent que tu as dans le mois, tu dois apporter la dîme. On n'apporte pas à la maison du trésor la dîme. On apporte les dîmes. Je travaille, j'ai un salaire, je donne ma dîme. Dans le mois, gloire à Dieu, j'ai eu une opportunité là et j'ai gagné de l'argent avec un petit business. J'emmène ma dîme. Dans le mois, oh, quelqu'un m'a vraiment béni et m'a fait un don de 100 000 francs. J'emmène ma dîme. Je prends toujours la dîme de ce que je reçois parce que j'honore toujours le Seigneur en le mettant en premier de mes sorties d'argent. Toujours. Alléluia. Donc c'est très important ça. Parce qu'il dit sinon, tu es frappé de la malédiction. La malédiction c'est quoi? La malédiction vient du latin malédire. Ça veut dire parler mal. Ça veut dire quoi? Quand tu ne donne pas l'argent à celui qui est censé le recevoir. Qu'est-ce qu'il fait derrière ton dos? Il parle mal de toi, non? Il y en a, Dieu parle mal de vous. Quand vous devez de l'argent à quelqu'un, la nuit quand il dort, il parle mal de vous. C'est l'éminaire, il me donne mon argent. C'est un imbécile là. Vraiment qu'il est bête, c'est comme ses pieds. Elle me donne mon argent. Quand je veux me réveiller demain, je vais l'appeler. Même si je dois débarquer chez elle. Regarde-moi si c'est là. Elle me donne mon argent. Et Dieu, c'est pareil, hein. Il est là. Attends, dans l'église là. Il est là. Il vous regarde. Toi, tu me donnes mon argent. Tu me donnes mon argent. Tu me donnes mon argent. Ouais. Quand on dit, ah, quand M. Ngabo est là, apportons nos dîmes et nos offrandes, Dieu dit, oui, oui, il me donne mon argent, celui-là. Donnez mon argent. Il faut lui parler à lui, il ne donne pas sa dîme. C'est pour ça que maintenant dans l'église, quand quelqu'un est inscrit dans la liste des membres, dis avec moi les membres. Les membres de l'église. Si le pasteur voit qu'il y a quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il attire la poisse de Jonas sur nous. J'ai dit, lui là, enlevez-le, il n'est plus dans le service, je ne veux pas le voir. Non, on le laisse loin derrière. Parce qu'on ne veut pas les problèmes. Quand on va avec quelqu'un, il dit, il faut payer ta dîme. Aujourd'hui, je parle cru. Hein? Dans le psaume 91, regarde ce que Dieu dit au verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lin et sur la spique. Tu fouleras le lionceau, le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je te protégerai, parce que tu connais le nom du Seigneur et tu l'honores. Alléluia. Deux, voici l'autre mystère caché derrière la dîme. C'est que la dîme, c'est la première leçon que je vous ai donnée la semaine dernière avec notre bon ami Abraham. Bâtir des autels à Dieu. Chaque fois que tu donnes ta dîme, tu es en train de bâtir un autel. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Un autel, c'est une porte ouverte qui permet à Dieu d'avoir un accès à tes finances. De même, quand tu ne payes pas ta dîme, tu bâtis aussi un autel, mais cette fois-ci au diable qui entre et qui détruit tes finances. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1, il nous est écrit, l'Éternel dit à Abraham, regarde bien ce qu'il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu est en train de dire à Abraham, maintenant engage-toi sur le chemin de ta destinée. Le chemin qui te rendra riche. Vas-y, avance. Et Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Va-t'en, avance maintenant. Et quand Abraham s'apprête à partir, Dieu lui dit, Abraham, souviens-toi de quelque chose. Voici ce que je vais faire. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Charan veut dire route sèche en hébreu. D'accord, c'était la galère. D'accord? Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait. Son papa lui avait déjà légué un certain nombre de choses, ok? Tous les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Il dit, ok. Dieu dit, en fait, je te rendrai riche. D'accord? Dieu dit, alléluia, je te rendrai riche. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a sécurisé cette parole, cette prophétie sur sa vie. Il continue, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il voulait être tellement sûr que cette prophétie allait être sécurisée que même arrivé à Haï, il dit non, ça là, c'était trop deep comme parole que j'ai reçue. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il a fait ça deux fois. Voici comment Abraham a commencé son chemin vers sa destinée, en bâtissant un autel à l'Éternel. Alléluia. Et la parole que Dieu lui a dit, c'était des engagements que le Seigneur avait pris. Dieu avait dit à Abraham, un, je ferai de toi une grande nation. En autre mot, je te donne le manteau de la domination. Deux, je te bénirai. Ça, c'est le manteau de la prospérité. Trois, je rendrai ton nom grand. En d'autres mots, je te donnerai une grande renommée. Quatre, tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est le manteau de l'abondance. Que tu puisses ça puisse te déverser aussi sur les autres. Cinq, je bénirai ceux qui te béniront. C'est le manteau de la bénédiction. Chaque fois que quelqu'un sera avec toi, lui aussi, il sera béni. D'accord? 6. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est le manteau de l'autorité. Car toute personne qui maudit une autorité, obligatoirement, elle est frappée à cause de l'autorité que possède cette personne. 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est le manteau paternel. Tu seras un père pour les hommes. Alléluia. Tout ça parce que Abraham avait décidé de prendre le chemin de sa destinée et a sécurisé la parole qu'il avait reçue. Et tout ça, si quand on étudie la vie d'Abraham, il a eu tout ça. Alléluia. La domination, la prospérité, la renommée, l'abondance, la bénédiction, l'autorité et la paternité sont attachés à la dîme. Alléluia. C'est très, très, très important de comprendre ça. Alléluia. Donc souviens-toi que la dîme fait partie de la première phase, la protection. Amen. C'est très important. Ensuite, nous parlerons de l'investissement et de comment dépenser son argent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'oublie jamais ce que nous venons de voir. La parole ou encore la révélation, quand elle arrive, ça rentre doucement. Et quand ça rentre, ça vient pour réformer, pour changer notre manière de penser. N'oublie jamais ce processus. Parce que celui qui obéit à ce processus, il va voir sa vie être totalement transformée au niveau spirituel comme au niveau naturel. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que tu peux incliner la tête avec moi et rendre grâce à Dieu pour la révélation de sa parole? Celui qui obéit au processus d'enrichissement dans le royaume commence d'abord par garantir la protection de ses biens et de ses revenus. Et ça commence par la dîme. Et la dîme commence par garantir ta protection. Mais la dîme passe aussi par bâtir des autels à Dieu. Chaque fois qu'on donne sa dîme, ce n'est pas à un homme que tu donnes ça. C'est une manière pour toi personnellement de dire: Seigneur, je te bâtis un autel. Et je te donne accès à ma vie. Non seulement pour protéger ma santé, parce que j'ai besoin aussi d'être en bonne santé financière pour pouvoir travailler. Et celui qui n'est pas fidèle, il ne pourra pas finir le processus. Il ne pourra pas finir la marche. Soit tu mourras plutôt, soit tu mourras de manière prématurée, ou soit tu finiras pauvre. Mais les gens qui sont obéissants, je t'assure, regarde leur vie. Ils manquent de rien. Ils manquent de rien. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ta parole. À partir d'aujourd'hui, Père, accorde-nous la grâce d'être fidèles, Seigneur, dans le processus. Accorde-nous la grâce d'être fidèles, Seigneur, dans la gestion de nos finances. Accorde-nous la grâce de comprendre l'importance de payer sa dîme, épargner, semer des offrandes dans le royaume, investir dans des actifs. Et merci pour tous les actifs dans lesquels tu nous permettras d'investir. L'immobilier, les hommes, la formation, toutes sortes de choses que tu mettras sur notre chemin. Et ensuite, nous pouvons dépenser de manière intelligente notre argent, Seigneur. Merci parce que tu révèles ces choses pour libérer ton peuple des oppressions financières. Merci, Père, parce que suite à cela, Père de grâce, nous verrons, Seigneur, des flots de grâce et de bénédictions financières arriver sur nos vies au nom de Jésus. Parce que tu es en train de te bâtir un peuple prospère, Seigneur. Un peuple sage, un peuple fort, un peuple qui comprend les principes d'enrichissement, tous les mécanismes pour faire fructifier, Seigneur, son argent. Merci, Père, parce que tu nous accordes la grâce d'avoir la mentalité de Zachée qui savait prendre les devants, de monter sur un arbre, d'élever sa manière de penser, Seigneur. Parce que tu nous révèles que la richesse se bâtit avec le temps et la richesse s'amasse peu à peu dans la vie et non pas de manière malhonnête et rapide, Seigneur. Nous te bénissons, Père, pour la révélation de ta parole. Reçois l'adoration qui t'est due. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois l'adoration qui t'est due. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Reçois l'adoration.
acclamer le Seigneur bien fort. Merci Père. Parce que l'une des meilleures manières de montrer notre adoration envers notre Seigneur, c'est par ce que nous lui offrons. Alors Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de t'offrir, que ce soit au travers de notre argent comme au travers d'autres choses, une véritable adoration. Reçois encore l'honneur et la gloire pour la révélation de ta parole, toi qui nous fais comprendre ces choses dans ta maison. Nous te bénissons. Merci encore pour cette semaine qui a commencé avec toi. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire dans cette église. Merci pour ce que tu feras, les miracles, les signes et les prodiges que tu accompliras dans cette église et les grâces de toutes sortes que tu vas déverser en temps sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort?
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.